Alors, pour cette dernière temps de topo, je pensais vous parler de la question de l'émerveillement. La question de l'émerveillement, parce que, au fond, en vous écoutant hier soir et puis en voyant un peu ce que vous partagez, ce que vous vivez, je me dis, il y a vraiment quelque chose à travailler de ce côté-là. Et beaucoup d'entre vous, ben, dans les moments de, justement, de réconciliation, ben, ont reconnu, voilà, avoir un regard négatif sur le conjoint, avoir un regard, au fond, c'est vite fait de voir l'autre comme une liste de défauts. Je veux dire, il ne faut même pas être intelligent, il faut juste être observateur. Et donc, est-ce qu'on va rester là? Est-ce qu'on va rester? C'est vrai qu'il ne faut pas séduire vers la réalité. C'est vrai que Père Samuel vous a parlé de cet acte de foi qui est à faire. Mais j'aimerais conclure, disons, ouvrir aussi cette perspective de ayez foi dans votre couple, avoir une attitude d'émerveillement. Et donc de travailler, qu'est-ce que c'est que l'émerveillement? S'émerveiller. C'est intéressant, le premier point, c'est intéressant de voir que l'émerveillement pour les Grecs et pour les philosophes grecs, l'émerveillement était un principe de connaissance. C'est-à-dire parce qu'on se demande, on s'émerveille, on s'étonne. Et on se pose la question, qu'est-ce que c'est que toute la philosophie grecque s'est mise en route, et nous sommes aussi les héritiers de cette philosophie grecque. C'est intéressant de voir ça, c'est qu'au début, il y a un étonnement, au début, il y a une admiration. C'est-à-dire connaître, au début de la connaissance, il y a comme une fascination de ce que c'est, et du coup, qui me pousse à approfondir et à poser des mots et à mettre des mots et à faire travailler mon intelligence pour dire ce que c'est la réalité du cosmos, la réalité terrestre, la réalité animale, la réalité, voilà, la réalité de Dieu, qu'est-ce que c'est? Et donc, je crois que c'est aussi intéressant de voir que vous vous connaîtrez l'un l'autre si vous rentrez dans cette dimension d'admiration. Dans cette dimension d'émerveillement. C'est le principe de connaissance. Je trouve ça intéressant parce que, au fond, on pense souvent l'inverse. On est plutôt dans attentiste, que l'autre se révèle, etc. Et que voilà, et au fur et à mesure qu'il se révèle, moi je vais le connaître. Mais bien souvent, on laisse l'autre faire le premier pas. Mais avec l'autre, avec un petit A ou un grand A, avec le conjoint ou avec Dieu lui-même, c'est à mesure qu'on se donne à lui qu'il se révèle. Et dans votre vie de couple, il en va de même, c'est à mesure que vous vous donnez et que vous faites une confiance et que vous rentrez dans l'admiration l'un de l'autre, que l'autre peut ouvrir son cœur et manifester aussi les dons qu'il a reçus. Si l'on attend simplement que l'autre fasse le premier pas, vous voyez, on est toujours dans une attente, et donc du coup, voilà, chacun attend sur ses gardes, bon, dans un cas un peu de conflit de couple, ce qui peut arriver, de blocage intérieur, vous voyez, quand il y a des blocages, voilà, c'est à toi de faire le premier pas, c'est à toi de faire le premier pas. Alors que dans l'émerveillement, c'est l'inverse, pour connaître, d'abord, je me décentre de moi-même. Je me décentre de moi-même. C'est comme une forme de stupeur, une forme d'étonnement. Et connaître, c'est-à-dire, ça veut dire naître avec. Hein, connaître, c'est naître avec l'objet qui est connu. Et on le sait bien, l'amour précède la connaissance. C'est-à-dire que l'on aime parce qu'on connaît et on connaît parce qu'on aime. Et je pense que de découvrir au fond que l'autre pourra se révéler et se laisser connaître, ça prend toute une vie, parce qu'il sentira en face de lui, en face d'elle, un amour, et un amour bienveillant. Du coup, voilà, je peux rentrer, je peux, entre guillemets, lâcher prise, je peux m'abandonner, me remettre entre ses mains, parce que je sens en face, et j'expérimente, un amour bienveillant et plein d'admiration, et un amour profondément positif face à moi. C'est pas si simple, hein, parce qu'on voit bien dans vos vies, et puis dans nos vies à tous, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où c'est comme ça, où il y a vraiment ça qui se donne, et vraiment des grâces de confiance, de bienveillance, et puis voilà, on se lâche comme ça, on se donne, Parce qu'au fond, voilà, bien sûr, vous vous êtes donné au moment du sacrement de mariage, mais c'est toute la vie qu'il faut prendre aussi pour se révéler et se faire connaître à l'autre. Se faire connaître, parce que pourquoi est-ce qu'on a du mal? Parce que se faire connaître, c'est quelque part s'exposer. C'est quelque part laisser l'autre peut-être profiter de nous. Quelque part aussi, voilà, on se dit, mais même si c'est votre mari, votre femme, bon, vous l'avez choisi, etc., mais il y a une forme de peur par rapport à l'autre. Et je veux dire, à l'autre qui est, plus l'autre est proche, plus la peur peut exister. Vous savez, les gens qui sont en Chine, les gens qui sont au fin fond de l'Amazonie, moi, je les aime de tout cœur. Ils me dérangent pas du tout. Ce qui me pose problème, c'est mes frères, au quotidien. Ah, là, aimer l'inconnu, ça ne mange pas de pain. Mais ce qui me pose problème, ce qui m'exige, ce qui parfois me crée des tensions, c'est le prochain proche. Et Mère Teresa disait souvent aux volontaires qui allaient à Calcutta pour aider les religieuses, elle disait souvent, attention, vous quittez vos pays occidentaux, la plupart étaient occidentaux, vous quittez l'Europe, vous quittez l'Amérique, mais prenez conscience que c'est pour découvrir le prochain proche et pour aimer celui qui est à votre porte. Et c'est vrai que parfois, il faut aller loin pour découvrir celui qui est prêt. Et donc, je crois que c'est cette invitation, au fond, à la définition de l'admiration et à cette attitude d'admiration, je crois que c'est quelque chose qui est au cœur aussi de l'acte de foi que vous posez. L'admiration, c'est un regard, un certain regard sur l'autre. Et la foi, c'est le chemin du regard. La foi, c'est aussi une certaine manière de regarder choses et personnes, événements et circonstances. Et donc, on voit bien que émerveillement et foi sont très liés parce que je découvre dans mon regard quelque chose de beau, parce qu'on s'émerveille face au beau, face au bon, face au vrai. Alors du coup, je peux aussi me donner et je peux aussi faire confiance, donner foi à la parole de l'autre. Alors ça, c'est le premier point, c'est la question, qu'est-ce que c'est que l'émerveillement, l'admiration comme principe de connaissance. La deuxième chose que l'émerveillement nous enseigne, c'est que le réel est premier. Le réel est premier est une source qui vient féconder notre intelligence. Et dans la philosophie grecque, et particulièrement la philosophie d'Aristote, qui est mon grand-père spirituel, mais un grand-père plusieurs siècles avant Jésus-Christ, mais un grand-père intellectuel et spirituel. C'est très intéressant de voir, qui a été admis comme une philosophie commune dans l'Église catholique. C'est intéressant qu'il dit, pour que l'intelligence soit fécondée, il faut qu'elle accepte de passer par les sens. Il faut qu'elle accueille le réel par le corps. Et non pas à la philosophie de Descartes, par exemple, qui dira « le sujet pensant est premier ». Au contraire, j'établis un doute sur tout, le doute méthodique, ça vous renvoie peut-être à quelques années en arrière, où vous avez étudié Descartes première, c'est première, terminale, la philo ? Première, oui, donc ça fait quelques années. Oui. Première, mais bon, mais c'est toujours très bien de revenir à la philosophie. Et donc, du coup, au contraire, Descartes disait « ben voilà, au contraire, il y a un doute ». La seule chose dont je ne doute pas, c'est que quand je doute, je pense. Et donc, là, je peux... Vous voyez, c'est intéressant de voir. Il jette un soupçon sur la réalité, alors que les philosophes grecs avaient une bienveillance face à la réalité. Et donc, je crois que c'est philosophes grecs païens, bien sûr, antérieurs au Christ. Donc, c'est intéressant de pouvoir les comparer aussi. Et je pense que derrière ça, c'est... L'émerveillement a besoin d'abord d'une attitude d'accueil de l'autre tel qu'il est, non pas comme je rêverais qu'il soit. Et c'est vrai que parfois j'ai entendu dans la bouche de jeunes mariés ou de mariés qui avaient plus d'expérience, je dis, est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que, dès que viennent les épreuves, et surtout au début de la vie matrimoniale, on se dit, mais je me suis complètement gouré, quoi. Et on voit, c'est une tentation. On voit, on se dit, on regrette presque son choix. Et ça, il faut être attentif à ça, parce que ça, c'est quelque chose de très sournois. D'où l'importance aussi, je suis intimement convaincu que dans la préparation au mariage, 90% des difficultés du couple sont déjà visibles. D'où l'importance de préparer, de s'être préparé au mariage avec sérieux et avoir un vrai regard et lucide sur l'autre. Mais on voit bien ce soupçon qui est en nous, ce soupçon qui est vraiment le juste opposé de l'émerveillement. Et Aristote dit, au fond, il faut pour que l'intelligence soit féconde, c'est-à-dire pour que l'intelligence circule, fasse le lien entre les concepts, se projette, perce les secrets de la nature, les secrets de toute chose, il faut d'abord qu'elle accueille. Et elle accueille le réel dans une bienveillance, et elle l'accueille par les sens. Nous sommes d'abord des êtres accueillants, avant d'être des pensées complètement ou des raisons, des intelligences déconnectées du réel. Non, nous sommes d'abord dans l'accueil de l'autre. Et une des qualités de l'émerveillement, c'est précisément ça, c'est cette primauté, ce que l'on appelle en philosophie, cette primauté de l'objet sur le sujet. C'est-à-dire la primauté de l'objet, l'objet connu, hein, que ce soit la table, que ce soit le conjoint, que ce soit Dieu, c'est un objet de connaissance. Il est d'abord premier par rapport au sujet qu'il connaît. Hein, et donc, c'est intéressant de découvrir au fond que dans la philosophie grecque, il y a cet accueil d'abord du réel qui vient féconder ma vie intellectuelle et qui vient féconder aussi mon cœur, parce qu'au fond, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Alors, je trouve que c'est très beau de voir ça, cette humilité de l'intelligence face à l'autre, cette humilité de l'intelligence face à Dieu, bien sûr, hein, face au monde, face à moi-même. Hein. Ça veut dire aussi si connaître, c'est naître avec, mais il faut quelque part renaître avec le réel. Renaître avec le réel de votre couple, ici et maintenant, dans ce qui fait la vérité de votre couple, dans ce qui fait la réalité de votre couple. Il faut passer du projet à la promesse. Bien sûr qu'on se projette, on imagine des tas de choses, etc., à la veille de son mariage. Et puis il y a la réalité, mais cette réalité-là, elle est promesse. Promesse aussi de bonheur. Et ça, c'est devenant d'un regard différent sur l'un sur l'autre et sur vous et peut-être même sur Dieu lui-même. Donc, c'est intéressant de voir qu'il faut comme renaître, et c'est ce que dit Jésus à Nicodème, celui qui ne renaît d'en haut, eh bien, ne peut accéder à la connaissance de Dieu, ne peut accéder à la connaissance de qui est le Christ. Il faut redevenir des enfants, au fond. Il faut redevenir une source, et une source bienveillante. Seulement quand je suis un enfant, Dieu, le monde, l'autre, peut révéler son mystère. C'est tout un cheminement, parce que toute l'éducation tend à être autonome, et c'est bien, indépendant, et c'est bien. Mais toute l'éducation spirituelle consiste à devenir un enfant. Vous voyez, cette différence qui ne s'oppose pas, c'est deux points de vue différents, mais de devenir un enfant, c'est savoir s'émerveiller face à la réalité des choses. Et savoir avoir un regard de bienveillance par rapport au réel qui m'entoure. Donc, troisième point, s'émerveiller, c'est opérer un décentrage. Un décentrage de soi-même, dans le sens où je ne me mets pas en premier, mais je mets l'autre en premier. Hein, s'émerveiller, dans ce sens, c'est un sacrifice, un effort. Hein, pas de connaissance sans vivre une forme de Pâques intérieure, c'est-à-dire sans mourir à nous-mêmes, à ce désir d'être la mesure de toute chose, ce désir d'être au centre de l'univers, d'être comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Voilà ce qui mine l'émerveillement en nous, l'orgueil. L'orgueil qui nous fait vouloir être au centre de toute chose, alors qu'au contraire, on a à être comme créature, nous ne sommes pas Dieu, dans l'accueil et dans la bienveillance et l'admiration. Ça veut dire aussi que Le Seigneur nous demande aussi que, en connaissant, je peux aimer davantage. Et en aimant, je connais davantage. C'est entre amour et connaissance, il y a comme, c'est les poumons, les deux poumons d'une respiration de relation matrimoniale. Amour et connaissance. Hein, parce que justement, c'est l'intelligence qui se connaît de ce que, se nourrit de ce que le cœur a pu découvrir en se donnant. Et le cœur aime davantage parce qu'il est comme encouragé par l'intelligence dans le bien qu'il voit, qu'elle voit cette intelligence. Il est encouragé à se donner encore plus. Vous voyez ce grand basculement entre amour et vérité, hein, ce que dit le psaume, amour et vérité sont en compte. Amour, cœur et intelligence sont comme les deux de pair. Mais il y a une conversion à faire dans notre intelligence et dans notre manière de saisir le réel. Il y a une vraie révolution copernicienne. Hein, vous savez, Copernic, hein, c'est celui qui a dit, voilà, non, c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. À nous, toute la vie chrétienne, c'est une révolution copernicienne. Nous décentrer, le centre de gravitation n'est pas nous-mêmes, le centre de gravitation, c'est l'autre. Et donc, vous voyez combien ça demande une vraie grâce. C'est bien sûr qu'il y aura des efforts quotidiens, mais puisez dans ce trésor de grâce qui vous a été donné. Ayez foi dans ce trésor de grâce. À un moment donné, c'est raide parce que voilà, l'affectif n'est plus au rendez-vous, les émotions sont plus au rendez-vous. On découvre l'autre qui nous blesse, on découvre voilà, et on se blesse en le voulant ou sans le vouloir. Mais c'est un côté un peu raide, un peu rugueux. Mais justement. Parce qu'il y a ce côté-là, il faut repuiser plus loin et découvrir dans les épreuves quelque chose qui me révèle à moi-même qui je suis. Hein, un peu comme vous n'êtes plus de la génération de la photo argentique. La photo argentique, vous êtes bien de la génération du numérique, me semble-t-il. Mais l'avantage de la photo argentique, j'en ai pratiqué quand j'étais adolescent, c'est très intéressant parce que justement l'épreuve photographique, c'est aussi une épreuve, l'épreuve photographique se révèle hein, dans un. On projette le négatif sur le papier et on le met dans un bain qui s'appelle le révélateur. Et ensuite, on se le met dans un bain qui s'appelle le fixateur. Donc, c'est intéressant de voir au fond les épreuves que vous pouvez vivre et quelle vie n'a pas d'épreuve. Et ce n'est pas parce qu'il y a des épreuves que vous n'êtes pas béni. Ce n'est pas parce que les épreuves que vous n'êtes pas gentil, que vous êtes une méchante fille ou un mauvais garçon. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, ni pour vous, ni pour vous, ni pour nous. Toute vie, forcément, a besoin d'être quelque part taillée intérieurement, toute vie. Bon, certains sont plus éprouvés que d'autres, ça je le reconnais, éprouvés dans leur santé, éprouvés dans les relations, éprouvés au plan professionnel. Voilà, ça on ne choisit pas. Mais ce que l'on choisit, c'est la manière de le vivre. Ça, on le choisit. On ne choisit pas les épreuves, mais on choisit la manière dont on veut les vivre. Et donc, demandez au Seigneur vraiment de découvrir dans l'épreuve quelque chose qui va vous révéler à vous-même. Mais on voit bien que dans l'épreuve, il y a en même temps une colère et il y a une violence. Et il faut le dire, cette colère et cette violence. Ça me paraît la base aussi de l'émerveillement. J'ai travaillé aussi un peu sur le livre de Job. Vous connaissez le livre de Job, hein, justement, où on voit Job, qui est une figure de l'Ancien Testament. Il n'y a pas eu un monsieur Job hein, avec une carte d'identité, etc. C'est Job, c'est une lecture, ce qu'on appelle les écrits sapientiels. Sapientiels, ça veut dire de la sagesse. C'est un compendium un peu de toutes les misères qui peuvent exister dans le monde. C'est inspiré, c'est un conte inspiré. Mais dans le livre de Job, c'est très intéressant de voir que il part, alors qu'il était dans l'abondance, ensuite il arrive à une colère, et là arrive une colère très forte pour l'homme de l'Ancien Testament, à tel point que il accuse Dieu. Hein, oui, Dieu m'a livré à des injustes, entre les mains des méchants, il m'a jeté, je vivais tranquille, il m'a fait chanceler, saisi par la nuque pour me briser, il a fait de moi sa cible, il me cerne de ses traits, transperce mes reins sans pitié et répand à terre mon fiel, il ouvre en moi brèche sur brèche, fonce en moi tel un guerrier. On voit bien que les épreuves qu'a connues Job fait qu'à un moment donné, il se retourne contre Dieu lui-même. Parce que, au fond, l'existence de Dieu, ça ce serait un autre sujet, mais l'existence de Dieu rend le mal encore plus intolérable. C'est évident. Ça rend le mal, parce qu'on y perçoit une solution. Et on le sait bien, cette éternelle question, si Dieu existe, pourquoi le mal? Et j'ai beaucoup apprécié cette grande réflexion de l'archevêque de Bruxelles Malines, donc en Belgique, Monseigneur Léonard, qui dit au fond, si Dieu lui-même ne prend pas le mal sur lui, la question de Dieu est absolument intolérable, parce que on voudrait quelque part une réponse. Et le Dieu des chrétiens a pris toute chose sur lui. Et donc c'est intéressant de voir que ce qui est un obstacle à l'évangélisation, c'est le mystère du mal et le mystère de l'iniquité. Et nous, chrétiens, nous avons une bonne nouvelle, dans ce sens, non pas qu'on a une assurance vie et qu'on est à l'abri des difficultés, certainement pas. Il n'y a qu'à voir la vie des saints, et c'est vrai que parfois on n'a pas tellement envie de le devenir, tellement ils sont soumis à des contradictions. Mais au contraire, nous découvrons que ce que je vis comme épreuve, le Christ l'a déjà vécu, le Christ le porte, le Christ, quelque part, a déjà épousé cette situation difficile. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand vous êtes dans une épreuve, dans un conflit, dans ce qui fait votre quotidien, quoi, dans des incompréhensions, dans des blocages, avec les familles, on a vu les questions de l'argent, l'accueil de la vie, ou la vie qui vient pas, ou bon, que sais-je, ou dans l'éducation des enfants, bon. Ne doutez pas, ça veut dire que vous êtes normaux. Vous êtes juste normaux, quoi. Donc, c'est tout. Maintenant, là où vous avez pris, c'est comment je le vis. Et quels moyens je me donne pour que cette épreuve-là, elle vienne révéler un amour plus grand et non pas détruire mon couple. Parce qu'il y a des épreuves qui peuvent détruire. Parce que si on s'endurcit, on voit bien, hein, parfois il y a une colère intérieure, c'est normal. Je pense qu'il faut, la dire, cette colère au Seigneur. Il faut la dire peut-être, j'ai de la colère face à toi. Parce que, quelque part, je sens que tu as été injuste dans ton attitude, dans tes paroles, dans tes réactions, etc. etc. Bon, comme aussi, Job a dit sa colère à Dieu. Hein. Mais c'est intéressant, dans le livre de Job, qu'est-ce qui fait sortir Job de sa colère? C'est non pas les discours lénifiants. Ben, je vous renvoie au livre de Job, mais lénifiant des piètres consolateurs, vous savez, il y en a toujours qui vous disent, mais bon, allez, il n'y a pas de croix sans résurrection. Tu viens de perdre ton job, t'es atteint d'un cancer, rends grâce. Il n'y a pas de croix sans résurrection. L'adrénaline augmente un petit peu, et on se dit, bon... Et vous voyez, il y a toujours des gens très bien intentionnés pour faire des discours pieux, mais qui nous éloignent de Dieu. Donc, je crois que dans le livre de Job, il y a ça. Dans le livre de Job, il y a ça. À un moment donné, il y a des gens qui interviennent, un peu comme des consolateurs qui se veulent un peu l'expression de la sagesse d'Israël. Mais si tu souffres, c'est que tu as péché. C'était la tradition en Israël. On le voit dans les Écritures, dans les Évangiles. On voit bien, à un moment donné, la guérison de l'aveugle de naissance, Pierre qui demande à Jésus, est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Parce que la souffrance est le signe de quelqu'un qui a péché ou lui-même ou dans sa famille. Et de même, il y a un des consolateurs ou des justificateurs de Dieu. On essaie de justifier Dieu. Ça, c'est redoutable. Ça, c'est redoutable. Ne justifiez jamais Dieu. Laissez-vous justifier par lui. C'est tout rendu juste, c'est-à-dire rendu ajusté au Seigneur. Et donc, je crois que... donc, à un moment donné, il y a plusieurs sages qui viennent et qui répètent, au fond, ce qu'on dit toujours, voilà, la bonne copine qui te rappelle, qui te dit, etc., qui te fait la morale, etc. Bon, c'est un peu comme ça. Et à un moment donné... Et lui, plus on essaye de dire, au fond, c'est normal ce que tu vis, et au fond, quelque part, c'est un peu de ta faute, c'est-à-dire plus on le culpabilise, plus il est en colère, qu'on peut comprendre. Et arrive un dernier personnage dans le livre de Job, qui est Élihu. Élihu, qui, au contraire, invite Job à sortir de la colère, mais non pas en justifiant Dieu, mais il invite à sortir de la colère par l'émerveillement. Par l'émerveillement. Et il dit, il invite, et c'est très fort, à contempler Dieu comme créateur et la beauté de la création. Il dit à Job, « Où étais-tu quand Dieu fondait la terre ? Parle si ton savoir est éclairé. Qui en fixa les mesures ? Le saurais-tu ? Ou qui tendit sur elle le cordeau ? Sur quel appui s'enfoncent ses socles ? Qui posa sa pierre angulaire ? Parmi le concert joyeux des étoiles du matin et les acclamations unanimes des fils de Dieu ? Qui enferma la mer à deux battants ? Quand elle sortit du sein bondissante, quand le Seigneur mit sur elle une nuée pour vêtement et fit des nuages sombres ses langes. Quand le Seigneur découpait pour elle ses limites et plaçait portes et verrous, où étais-tu, toi qui m'accuses ? » Au fond, il invite à la manière de l'Ancien Testament, c'est-à-dire cette admiration face au Seigneur, Élihu invite à dire « Prends conscience de qui tu es. » On sort de la colère par l'émerveillement et l'admiration. On ne sort pas dans la colère dans la vengeance. On sort dans la colère par en admirant, c'est-à-dire regarder vers. C'est ça, admirer. Je regarde vers. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Et donc, c'est très beau de voir que dans l'attitude d'Élihu, il lui dit, mais regarde qui tu es, regarde un peu le monde qui t'entoure, sors, décentre-toi de ta blessure. Alors qu'il avait perdu, je ne sais pas, il avait 7 chameaux, voilà, il avait 7 fils, c'était vraiment la plénitude, il avait des serviteurs, etc. Il a tout perdu jusqu'à sa santé, c'est vraiment un compendium de toutes les misères qui peuvent arriver sur terre. Donc, et puis la réponse de Job, c'est intéressant, il répond au Seigneur, je sais que tu es tout puissant, ce que tu conçois, tu peux le réaliser. J'étais celui qui voile tes plans par des propos dénués de sens. Aussi as-tu raconté des œuvres grandioses que je ne comprends pas, des merveilles qui me dépassent et que j'ignore. Écoute, laisse-moi parler. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. Je ne te connaissais que par oui-dire. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Ça, c'est très beau. C'est-à-dire qu'au fond, au cœur de l'épreuve, il y a une expérience de Dieu. Il y a une expérience de la présence du Saint-Esprit, une expérience du Christ. Jean-Paul II disait souvent, beaucoup de choses nous font découvrir le Seigneur. La lecture de la parole de Dieu, le Père Stéphane nous en a parlé ce matin, la prière, la liturgie, que sais-je, tant de choses, la théologie. Mais il dit, il y a une chose qui nous fait découvrir le Christ, c'est vivre sa passion. C'est-à-dire, quelque part, souffrir avec lui. On ne va pas le rechercher, mais j'allais dire, sans les rechercher, les épreuves, elles viennent toutes seules. Mais découvrir ce qui va être un chemin pour sortir de la colère, c'est découvrir aussi que quelque part, le Christ habite à l'intérieur même de cette difficulté de couple que vous vivez, difficulté personnelle, difficulté dans la relation intime, difficulté matérielle, liée aux familles, liée à l'éducation, que sais-je. Et ça, je crois que c'est là où vous avez donné un témoignage comme couple chrétien. Vous n'êtes pas meilleur que les autres. Vous ne vous sentez pas supérieur. Ah ben, supérieur à ceux qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas coché toutes les cases, qui n'ont pas fait tout dans l'ordre, etc., qui ont souvent fait le tiercé dans le désordre. Mais vous n'êtes pas supérieur, vous n'êtes pas meilleur qu'eux. Simplement, vous découvrez qu'il y a une confiance à l'intérieur de votre couple, une confiance qui vient du Christ. Et ça, vous pouvez en témoigner. Vous pouvez dire, écoutez, nous, on a, voilà, peut-être de la misère. Il n'y a pas si longtemps, là, j'accompagnais un couple. Cateau de base, les enfants au scoutisme d'Europe, eux-mêmes hyper impliqués dans l'Église, etc. Clac, le mari trompe sa femme. Puis pendant longtemps. Puis à un moment donné, arrive une lettre de la... C'est pour ça, parce que... N'allez jamais voir d'autres femmes, parce que du coup, ensuite, ça peut tourner mal. Parce qu'arrive la femme, elle lui écrit, etc. Elle dit, mais je suis enceinte de toi, alors que ça faisait au moins un an qu'ils n'avaient plus de relation. Mais bon, donc c'était un peu compliqué pour lui. Et arrive au domicile conjugal, cette lettre de cette fille. Et donc, il a dit, il faut que je demande pardon. Et puis, à un moment donné... arrive cette lettre, et il se trouvait qu'il n'était pas là pour ouvrir le courrier, c'est sa femme qui ouvre le courrier. Et donc, ce qu'elle fait jamais, elle me dit, je ne fais jamais ça, j'attends qu'il soit là, celui qui ouvre le courrier, on se voit. Et bon, elle tombe sur la lettre, en fait, elle tombe sur la lettre, et puis, mais elle voit une entête, parce que c'était dans le cadre de l'entreprise que ça s'est passé, ça, dans le cadre du job. Elle voit un peu l'entête de l'entreprise, et dit, mais non, allez, c'est pour toi, c'est ton entreprise qui t'écrit. Et lui, il voit la lettre, et voit que c'était la fille qui lui écrivait. Et là, il a dit, bah, écoute, il faut que je te parle. Évidemment, vous imaginez, la petite famille, bien sous tout rapport, quatre enfants, archi pratiquants, etc. Ben, tout son monde s'est écroulé. Je veux dire, ça, il y a quelque chose qui s'écroule, forcément. Mais ce que je trouve beau sans ce couple, bien sûr, il y a peut-être une fragilité chez l'homme, et puis, il y a des filles pour qui, voilà, qui clairement sont dans la tentation. Hein. Et en même temps, ce qu'on trouve très beau, c'est qu'ils ont décidé, ils ont dit, bon, on ne pensait pas que ça allait nous arriver, on pensait que ça arrivait qu'aux autres. On ne se voyait pas du tout, mais pas du tout dans cette perspective-là. C'est ni notre culture familiale, ni notre ce que l'on veut vivre comme couple. Mais cette épreuve-là, qui est quand même une grande épreuve, hein, de manque de fidélité, ben, je trouve ça admirable de voir comment ils l'ont dépassé. Après le moment de colère, ils l'ont dépassé dans la foi. Et ils ont décidé de faire un cheminement spirituel, lui de faire une retraite, bien sûr de demander pardon, bien sûr de recevoir le sacrement de réconciliation, bien sûr d'être accompagné, de prendre les moyens pour rebondir dans leur couple. Parce que c'est objectivement un couple super et une famille super. Donc, je trouve que c'est là où vous avez une bonne nouvelle à annoncer. C'est pas que vous êtes meilleur que les autres, hein, c'est que simplement dans votre vie, vous dites à ceux qui vous demandent témoignage de rendre compte de l'espérance qui habite en vous. C'est ce que dit saint Paul. Rendez compte de l'espérance qui habite en vous. Vous leur dites, écoutez, nous on galère comme vous. Nous, bon, voilà, on s'est marié à l'église, on a bien des petits couples bien comme il faut, etc. Bon, voilà. Mais croyez pas qu'on galère pas. Croyez pas que c'est pas difficile par moment. Beaucoup de grâce, beaucoup de joie, beaucoup d'actions de grâce, oui, ça, oui. Mais, et là, vous avez un témoignage. Et je l'ai dit à l'un ou l'autre d'entre vous, là. Lundi, pour ceux qui retournent au boulot, etc., ceux qui. Souvent, entre collègues, bah, t'as fait quoi ce week-end? Pensez à ce que vous allez dire. Il y a peut-être un témoignage à donner. Parce que parfois, oh oui, non, ça s'est bien passé, on était au calme, etc. D'accord ? C'est pas faux. Ça s'est bien passé, vous étiez au calme. Ou alors, ben voilà. J'ai fait une retraite de jeunes mariés. Une retraite dans un monastère. Le monastère, mais qu'est-ce qu'ils peuvent dire les moines du mariage, etc. Bon. Et... Vous voyez, je pense qu'il y a tout simplement un petit exemple tout simple là, qui peut donner un témoignage déjà. Et aujourd'hui, combien les couples ont besoin d'être encouragés dans leur vie. Vous aussi, vous avez besoin d'être encouragés. Parce que, voilà, c'est pas forcément simple. Il faut scoltiner la réalité de l'autre. Et puis on voit bien que le zapping, et on passe très vite du CDI au CDD dans le couple. Hein, donc, du coup, c'est pas... C'est cette manière de faire, donc on se dit, et l'Église, quelque part, c'est intéressant, l'Église, elle reste, on dit, oui, mais elle est archaïque, etc., elle bouge pas, elle n'évolue pas avec son temps, mais intéressant, une étude qu'a fait Sub de Corinth, début 2012, auprès des 18-24 ans, plusieurs questions. Premièrement, pour vous, qu'est-ce qui compte le plus? Plus de 70% la famille. Comment vous vous représentez le bonheur à près de 60-70% un couple stable et fidèle? 18-24 ans comme ça, dans la population française. Donc ce que dit l'Église, je veux dire, quand elle demande la fidélité, la stabilité, c'est pas, je veux dire, c'est pas que pour emmerder le monde, c'est ça emmerde aussi, mais bon, mais c'est que ça répond à un besoin du cœur humain. Il y a un besoin du cœur humain. Quand Jésus dit ça, il a peu parlé de la question du couple, hein, Jésus, mais quand il en a parlé extrêmement fort. La parole du Christ, elle est archi-claire. Pourquoi l'Église n'accepte pas au divorce? Parce que, précisément, comme disait Jean-Paul II face à un journaliste un peu agressif, mais vous rendez compte le nombre de familles que vous faites souffrir? Vous rendez compte? Et lui de dire, je ne suis que le vicaire du Christ. Il n'est que le porteur de la parole du Seigneur. La parole de Jésus est claire. Personne n'est obligé de se marier à l'Église. Mais si on se marie à l'Église, la parole, elle est claire. Et le Père Stéphane parlait ce matin de l'accueil de la parole. Ce n'est pas facile d'accueillir la parole. Mais la parole, elle était connue de tout le monde. Chacun savait ce qu'il se faisait au moment de s'engager. Donc je crois que c'est important de voir justement que cet émerveillement, c'est pas un optimisme, Béa, vous voyez, c'est pas quelque chose qui s'enracine dans, voilà, on plane, on est complètement déconnecté, c'est pas ça. Alors bien sûr, je vous ai envoyé un mail en vous disant de vous mettre en mode avion pour vos iPhones et autres smartphones, mais bon, franchissant le cap et l'enceinte de cette abbaye, ben vous vous reconnecterez au monde entre guillemets réel, même si ici c'est le monde réel. Mais c'est important de dire ça. Vous avez un témoignage à donner. C'est intéressant, la modification du rituel d'engagement dans la messe de mariage, ça a été modifié en 2006. Il y a une question supplémentaire que le prêtre pose aux fiancés. Acceptez-vous d'accomplir votre place, de prendre votre place dans l'Église et dans le monde? C'est une messe d'envoi. Vous ne vous mariez pas que pour vous. Vous ne vous mariez pas que pour votre couple, que pour vos enfants, que pour... Il y a quelque chose qui irradie. Et on a parlé de la fécondité spirituelle. L'enfant, c'est une forme de fécondité. Les enfants, ils partent, comme on l'a vu avec Renaud et Aliette hier dans leur témoignage. Eh bien, voilà, il y a aussi d'autres fécondités. Eux-mêmes sont aussi féconds, alors que, voilà, ils sont déjà dans l'âge adulte, voire dans un âge mûr. Donc je pense que c'est important de découvrir que vraiment vous êtes envoyé, vous avez à donner un témoignage d'espérance et de confiance. Et je pense, c'est quoi la grande différence entre un croyant et un incroyant? Ou athée, il n'y a pas beaucoup d'athées, il y a beaucoup d'agnostiques, des gens qui n'en savent rien, des gens qui s'en fichent royalement aussi. Mais c'est quoi la grande différence? C'est que la manière de vivre les épreuves est radicalement différente. Vous la vivez, vous tentez de vivre dans la confiance. Est-ce que l'autre fasse, s'il n'a pas la foi, cette dimension du pardon, cette dimension de l'accueil, eh bien, c'est pas dans la confiance, c'est dans la colère, voire dans la rébellion, dans la rancœur. Alors, je crois que c'est important de redécouvrir ça. Et puis, s'émerveiller, donc c'est un décentrage. S'émerveiller, autre point, c'est un regard contemplatif. C'est un regard contemplatif. Posez-vous la question, quelle est la part de vie cachée dans ma vie? Ça veut dire quoi? Quelle est la part de vie cachée? Quelle est la part de silence dans ma vie? Quelle est la part de solitude dans ma vie? Est-ce que ça a une place, la solitude et le silence? Ou est-ce que, surtout pour l'homme, l'homme se refait dans la solitude et le silence. Et je crois que c'est très important que vous puissiez puiser justement dans un regard contemplatif, puisque la foi c'est le chemin du regard, et que l'émerveillement c'est aussi une certaine manière de regarder, vous ayez cette dimension contemplative qui n'est pas propre des moines, c'est tous ceux qui sont dans un accueil de la réalité, et un accueil bienveillant de la réalité, et un accueil plein d'amour, et qui rendent grâce. Parce que qu'est-ce qui nous fait sortir de ce perfectionnisme et de ce défaut très, très franco-français de voir le point noir dans la page blanche? C'est la louange, c'est l'action de grâce. C'est ça qui va vous permettre, et la louange et l'action de grâce, je veux dire, c'est dire d'une autre manière l'émerveillement, parce que dans les deux cas, c'est un décentrement de soi-même. Dans la louange, dans l'action de grâce, on ne se regarde pas le nombril, on regarde le Seigneur, on remercie le Seigneur pour ce qu'il fait. Et ne quittez pas cette abbaye sans vous être remerciés l'un l'autre de ce que vous avez reçu dans votre expérience de vie matrimoniale et puis à le cas échéant de vie familiale aussi. Ne partez pas sans vous être remerciés, sans vous être encouragés l'un l'autre. Hein, vous allez avoir un temps en couple avec quelques questions, mais c'est plus un prétexte. Vraiment que ce temps-là refonde votre amour, refonde dans l'admiration et dans la bienveillance. Et puis, au fond, c'est un autre point qu'a la partie donc contemplative, mais aussi la partie de croissance. L'émerveillement est source de croissance de l'amour, parce que une chose est aimer, une chose est grandir dans l'amour. Vous vous êtes engagé à grandir dans l'amour. Oui, le mariage, le jour du mariage n'est pas le jour J et le top. Puis ensuite, ça se casse un peu plus ou moins la figure, jusque dans la vie éternelle. Donc non, le jour du mariage, c'est le ground zero, c'est en bas. Et vous montez. C'est l'inverse. Et vous vous engagez à être fidèle. Et comprenez la fidélité, non pas comme quelque chose de statique, je ne vais pas voir ailleurs, je veux dire, c'est le minimum syndical, mais la fidélité, c'est grandir dans le don. C'est grandir dans l'offrande de soi-même. Comme Dieu est fidèle dans sa création, Dieu est fidèle dans les prophètes, Dieu est fidèle dans sa parole, Dieu est fidèle dans ces temps qui sont les derniers, dans le Christ, et continue de manifester sa fidélité dans les sacrements, etc. C'est une fidélité qui est dynamique. Et posez-vous la question vous-même, où est-ce que vous... Est-ce que parfois, on peut très bien... Voilà, on n'a pas manqué de fidélité au niveau, j'allais dire, sexuel, etc., au niveau de la braguette, mais on peut avoir très bien manqué de fidélité au niveau du cœur. Non seulement laisser la place dans l'imaginaire à quelqu'un d'autre dans sa tête, mais tout simplement de refuser de se donner. Clac, on ne mourra plus. On ne mourra plus. C'est fini. C'est à lui de faire le premier pas. Hein? Ou c'est à elle de faire on se verrouille intérieurement. Vous voyez, ça c'est des manques de fidélité. Même si vous n'allez pas voir ailleurs, c'est des manques de fidélité. Et donc je trouve que c'est intéressant de voir que l'émerveillement, au contraire, est un signe de croissance. Vous emmène plus loin dans ce qu'est l'autre. Peut-être dans la découverte de ses fragilités. Oui, certainement, parce qu'on est fait de creux et de bosse, encore une fois, c'est tellement simple de découvrir sa fragilité et la fragilité de l'autre. Mais aussi dans un chemin de décentrage, dans le sens de renoncer à ce que l'autre soit mon image et ressemblance. Renoncer à être possessif, à être égocentrique. Hein, tout ça, ça nous empêche de découvrir l'autre. Au fond, le dernier point sur l'émerveillement, comme un chemin de croissance spirituelle, parce qu'au fond, ça nous fait, c'est une manière de vivre la croix du Christ, l'émerveillement. Ça, je pense que c'est quelque chose que l'on découvre, parce que l'émerveillement n'est pas béatitude, n'est pas attitude béate. Hein, l'émerveillement, parce que ça demande un effort, parce que ça demande de prendre sur soi-même, parce que ça demande de nous réformer. Il y a un côté fastidieux dans l'émerveillement. Il y a un côté volontaire. N'oubliez pas que l'amour est dans la volonté. L'amour n'est pas dans la sensibilité. L'amour est dans la volonté. Et un couple marche si les deux veulent que ça marche. Un couple ne marchera pas si un des deux veut que ça ne marche pas. Ça, c'est tout clair. Et donc, je crois qu'au contraire, c'est un chemin de croissance spirituelle, mais on le sait bien, la croissance spirituelle, elle ne se fait pas sans épouser quelque part la croix du Seigneur, sans partager la difficulté, sans ne serait-ce que découvrir mon propre égoïsme, je me mets en premier, ou ma propre négativité. Je suis tellement négatif, tellement dans des jugements a priori sur l'autre, dans mon couple, mais aussi dans ma famille, ou ma belle-famille, ou mes collègues de travail, etc. Je suis tellement dans cette attitude de, voilà qu'il me faut... Et donc, grandir dans l'amour Au fond, la croissance dans l'amour, ça passera peut-être par une étape difficile, mais ça passera aussi en découvrant ce qui a été, ce qui est aimable dans le cœur de l'autre, ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est bien dans la personne de l'autre. Et si vous l'avez épousé, c'est que forcément, vous avez découvert quelque chose de bien, de vrai et de bon. Sinon, vous ne l'auriez pas épousé. Sinon, j'allais dire, vous étiez dans l'état d'inconscience et donc c'est invalide. Vous étiez complètement ailleurs, ce que je ne crois pas. Quand je vous vois, vous n'êtes pas dans l'état d'inconscience. Simplement, vous passez du rêve à la réalité, mais dans ce passage du rêve à la réalité, il y a le passage aussi de l'émerveillement. Et je pense que cet aspect-là, vraiment de vous efforcer, mais parfois c'est difficile parce que justement, on est tellement dans une attitude d'exaspération, vous voyez, tellement exaspéré, tellement douloureux, on n'arrive pas à voir le positif, on n'arrive pas à voir l'autre, quelque chose de beau dans l'autre, on n'arrive pas à voir quelque chose d'aimable dans l'autre, et on réduit vite l'autre à une liste de défauts. Ça nous arrive tous. Et donc, je pense que le Seigneur nous demande et vous demande vraiment de vous mettre en chemin et de découvrir justement ce bon, ce bien, ce vrai pour grandir dans l'amour. L'émerveillement, un autre point, c'est l'attitude de la Vierge Marie dans son Magnificat. La Vierge Marie, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Elle est vraiment consciente de l'œuvre de Dieu en elle, comme aussi le Seigneur agit dans votre couple. Ayez foi dans l'action de Dieu dans votre couple, au-delà de même de ce que vous pouvez percevoir. Parce qu'on ne perçoit pas toujours dans nos vies la manière dont Dieu agit. Il n'y a pas très longtemps, c'était une parabole. Il agit à la manière d'une petite graine qui est semée et qui grandit. Et cette graine de moutarde, elle devient petit à petit une plante potagère très importante, et à tel point que les oiseaux du ciel font son nid font leur nid à son ombre. Et donc du coup, c'est parfois on ne perçoit pas. Il y a quelque chose qui nous échappe dans la croissance de l'amour. C'est dans les petites choses. Et je crois que la Vierge Marie, c'est vraiment celle qui nous fait découvrir dans les petites choses la croissance du couple, la croissance de notre personne humaine, la croissance de notre propre vie, et qui nous fait valoriser les choses petites. Je n'ai pas de grand dessein ni de merveille qui me dépasse, mais je garde mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant contre sa mère, dit le psaume. C'est des petites choses qui vont... Parfois, il faut repartir de la base. Il faut peut-être reconstruire. Il faut se reprendre par la main et se redire combien on est attaché l'un à l'autre et que on va y arriver à deux. Je veux dire, on va y arriver à trois. Parce qu'on le sait bien, le Seigneur est présent au milieu de nous. Alors, demandons nous-mêmes l'Esprit Saint. Demandons cette grâce de découvrir dans nos pauvretés aussi autant de lieux de sa présence. Demandons cette grâce aussi au Seigneur de découvrir non seulement pauvres mais aimables. Et alors oui, nous serons dans cette attitude d'émerveillement qui est source de joie parce que nous avons été créés pour la joie. Cet émerveillement qui fait... que Job, s'exclame que maintenant il a vu le Seigneur. Avant, il n'entendait que par oui dire. Il n'avait que des images de Dieu, mais il a pu toucher dans sa vie concrète la personne de Dieu. Et puis c'est très beau de voir à la fin du livre de Job. Il avait tout été multiplié par deux quelque part. Il avait 7 fils. Dieu, Job lui redonne 14 fils. Il avait 50 chameaux, il en a 100, il avait 20 serviteurs, il en a 40, il avait une femme. Et donc, ça marche pas. Donc, quelque part, c'est une fécondité supplémentaire. Parce que la question de notre vie, est-ce que ma vie porte du fruit? Est-ce que ma vie est féconde? C'est ça la vraie question de nos vies. C'est ça. Est-ce que ça vaut la peine d'être vécu, ma propre vie? Est-ce que ma propre vie de couple, elle vaut la peine d'être vécue? Ma vie de religieux, est-ce qu'elle vaut la peine d'être vécue? Et je pense que le Seigneur nous demande et vous demande de poser un acte de foi Même si ça va pas trop mal entre vous, je veux dire, même si ça, c'est pas, vous n'êtes pas à la dernière limite de l'avant-rupture, non, vous êtes simplement dans la galère comme tout un chacun, mais il vous demande de poser un acte de foi dans votre couple, dans la présence de Dieu, au cœur même de votre amour. Alors oui, la lumière, la ténèbre n'est pas ténèbre, mais le jour comme la nuit resplendit. Donc ça veut dire que même dans la difficulté, je découvre cette présence, cette lumière de l'amour de Dieu qui vient irradier toute chose, qui vient transformer toute chose, hein, pour nous donner accès jusqu'au jour où on le verra lui face à face. Alors rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il fait en vous et par vous. Prenez dans le temps qu'on verra cet après-midi, le temps aussi de vous encourager, de vous remercier, de redire ce qui est beau chez l'un et chez l'autre. Alors c'est ça qui vous fera grandir et rayonner autour de vous. Amen.